Roberto, la va a poner Roberto, la pone Roberto, ahí está Zinedine, Zinedine en gatilla, chuta. ¡Gol!
Le Real Madrid fait le spectacle du côté d'El Sadar à Osasuna du côté de Pamplune pour la 29e journée de Liga. Une journée que j'estime à mon niveau la plus importante de cette saison puisque avec la victoire 4-2 du Real Madrid sur cette pelouse, le Real, moi, je le dis, c'est 3 points de plus qui vont faire probablement, très très probablement une 36e Liga pour les hommes de Carlo Ancelotti. On va essayer de revenir sur cette rencontre, sur justement ces enseignements que l'on pourrait tirer, que sur lequel je suis déjà, on va dire, enthousiaste à l'idée de pouvoir vous en parler. On va parler aussi également du retour de nos blessés. On va vous parler également du quart de finale de Ligue des Champions contre Manchester City et tout ce programme-là qui va avoir lieu donc dans les prochaines semaines, qui vont être décisives. Et comme d'habitude, on va en parler avec Hichem de Real French Madrid et avec Abdou pour le Journal du Real. Messieurs, bonjour.
Bonjour, messieurs.
Bonjour, bonjour, messieurs. Comment allez-vous?
Ben, ça ne peut qu'aller. Ça ne peut qu'aller, Hichem, hein, après une victoire aussi.
C'était probante. Abdou pour le coup.
Ah, c'était Abdou qui a parlé. Je ne reconnais plus les voix. ça doit être. Le matin, puisque nous on enregistre, il est aux environs de, on est avant téléfoot pour situer les gens, sans donner d'heure précise. Mais voilà, ben Abdou, ça peut qu'aller très bien après une victoire comme celle-ci et une victoire qui, je pense que de tout ce mois de mars, j'estime que le match contre Pamplune, même s'il y a un passif qui est positif du Real Madrid contre cette équipe, c'était le match le plus important puisque c'est le match qui est avant la trêve internationale où il y aura une coupure d'une dizaine de jours qui va avoir lieu et qui va nous mener après du mois d'avril jusqu'à la fin de saison vers le sprint final. Et avant le sprint final, quand on fait le bilan, c'est 3 points de plus, c'est quand même une victoire avec style et évidemment ça permet donc de pouvoir se dire que j'allais dire on va entamer ce sprint là sans avoir à faire trop d'efforts dans les mois décisifs, en tout cas pour gagner la Liga.
C'est réel. Je pense sincèrement qu'on a fait la bonne opération. Après, quand même, je me projette un tout petit peu. Je dis que le match contre l'Athletic Club, il va arriver un peu au milieu de nulle part. Parce que
c'est ça, le 31 mars. Le 31 mars. Ouais.
C'est ça. Et après, la rencontre suivante, c'est City le 9. Donc, tu auras quand même une bonne grosse semaine et demie. Peut-être même un petit peu moins. Enfin, là, je fais ça un peu au pif, mais en gros, entre le 31 et le 9, t'as aucune rencontre. T'auras le temps de bien te reposer, bien préparer la rencontre, pouvoir mettre 5 milieux de terrain sur le terrain aussi, pourquoi pas. Mais on en discutera après. Mais non, je pense que, comme tu l'as dit, Osasuna, c'était une rencontre charnière. C'était important de gagner là-bas, surtout que Osasuna, ces dernières saisons, nous pose systématiquement des problèmes, que ce soit au Bernabéu, que ce soit chez eux. Donc, gagner comme ça, de cette manière-là, non seulement c'est excellent pour la confiance, mais c'est aussi un message envoyé parce que tu as joué avant Girona. Girona derrière qui a perdu. Donc, tu as au moins 10 points d'avance avec ton premier poursuivant. À voir ce que fera le FC Barcelone contre l'Atlético de Madrid. S'ils prennent les 3 points, ils vont les prendre ou pas. Et tu te retrouverais potentiellement avec, du coup, là, ils ont un point de moins que Girona, donc plus ça, 1, 10. Donc, ils auraient 8 points d'avance sur le Barça.
8 points d'avance sur le Barça, 8 à 11 points, en fait, hein, en fonction donc, du match contre l'Atlético qui aura lieu donc ce dimanche soir à 21h. C'est ça, hein.
Exactement. Ouais. Exactement, en sachant que tu affrontes le Barça juste après le match retour contre Manchester City en Champions League. Donc, pour entamer le sprint final, tu auras cette semaine ultra décisive où concrètement on saura si tu es en demi-finale de Ligue des Champions ou pas. Et dans le même temps, tu Bah, tu joueras la Liga, mais t'auras l'occasion de vraiment tuer la Liga, comme l'a fait le FC Barcelone contre nous l'année dernière, concrètement. Bon, c'était en mars, il me semble. Je
C'est
crois que c'était
ça.
le 26 mars, le Classico qu'on perd 2-1.
Et oui, c'est ça, avec justement ce match que l'on doit gagner mais que l'on ne gagne pas et qui, on va dire, enterre définitivement les rêves de Ligue 1 en 2023.
Mais pour moi,
C'est
on va
ça.
tuer la Liga. On peut potentiellement tuer la Liga en affrontant ou en gagnant contre l'Athletic Club de Bilbao. Pour moi, c'est le match qui sera juste après la trêve décisif. Et derrière, en fait, tu prends, t'as suffisamment d'avance pour aborder sereinement tes prochains matchs de Liga, sans forcément relâcher, bien évidemment, ton attention. Mais en se concentrant, j'ai envie de dire, toutes les forces vers la Ligue des Champions.
Parce que
Après, le match contre Barcelone, je le vois plus comme tu es dans une semaine effectivement décisive, comme Abdou le disait.
c'est la kermesse, le classico cette année. Si les points sont pris correctement,
Ouais.
j'allais dire d'ici la
Contre
fin de
l'Athletic Club et Majorque.
la.
Ouais, genre si donc du coup quand tu viens contre Barcelone, quand tu arrives contre Barcelone, j'ai envie de dire c'est pas une formalité, mais bien sûr le classico, tout classico doit être gagné et c'est l'objectif. Mais t'es plus serein, j'ai envie de dire.
Ah, clairement. Parce que c'est vrai que là, bon, je sais pas si j'extrapole un peu. Pas du, moi, je pense pas. Parce que c'est vrai que c'est une équipe qui, ça fait, on va dire, depuis 13 ans que le Real Madrid ne s'est pas incliné contre Pamplune. Il y a aussi la dynamique de Pamplune qui, cette saison, n'est pas capable de gagner contre le top 5 du championnat. Donc le Real Madrid ne déroge pas sa règle, surtout qu'il est au top du classement. Mais c'est vrai que je suis obnubilé par une chose. Toujours, c'est de me dire que il faut capitaliser le maximum de points avant la trêve internationale du mois de mars. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, entre le retour de cette rencontre, de cette trêve, il n'y aura plus de matchs de sélection qui vont venir perturber entre guillemets l'avancement de la saison. Et là, effectivement, il faudra être focalisé pendant 2 mois sur son club jusqu'à la fin de la saison. Et c'est là qu'on gagne les trophées. Donc, être qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et avoir 10 points d'avance sur Girona et peut-être voilà et au minimum 8 sur Barcelone en attendant le match de ce dimanche. Mais ça donne, on va dire, une dimension. Pour le Real Madrid, où la Liga ne peut plus nous échapper à partir de maintenant. Parce que y a la marge. On va dire que, par exemple, le joker que tu peux avoir contre Athletic Club à domicile, et éventuellement même le Classico plus tard, ben, j'allais dire que pour pouvoir, on va dire, griller ces jokers-là, ce sera plus difficile que si, par exemple, on avait perdu à Pamplune aujourd'hui.
Non, mais
Mais
c'est
tu vois, vas-y, Chum.
Non, mais il a tout dit. Tu peux continuer, Abdou,
Mais tu
rebondir
vois,
dessus.
typiquement, je me dis, il y a un facteur. On parlera plus tard de la Ligue des Champions, mais il est question éventuellement qu'on inverse l'ordre des matchs entre Manchester City et Real Madrid. De ce que moi j'ai lu, c'est pas encore arrêté. Et on ne saura que finalement la veille, si les autorités se sentent capables d'assurer la sécurité des supporters, parce que la veille, il y aura eu le match entre Atlético de Madrid et Dortmund.
Inversé. Je dis bien potentiellement, hein, c'est vraiment du conditionnel. Je précise, il y aura peut-être un inversement et tu auras et quart de finale retour et Classico la même semaine au Santiago Bernabéu.
Comment ça va se dérouler tout ça? Et même si tu as le quart de finale retour en Angleterre à l'arrivée, pour moi, je pense que cette semaine-là ultra décisive, juste après Majorque, c'est concrètement, je pense que ça va être le cœur de la saison et ça va tout justifier parce que si tu arrives à battre ce City-là, bah après, tu vas concrètement être en roue libre pour moi et tu vas aller au bout. Et si tu bats le Barça à domicile et que tu creuses l'écart comme ils l'ont fait contre nous l'année dernière.
Mais avant de revenir, on va dire, sur le week, j'allais dire la Ligue des Champions, et les calculs hein, qui commencent à se mettre en place, non, revenons quand même sur la rencontre. C'est vrai qu'il y avait un match ce week-end à Pamplune. Osasuna HM a donc c'est vrai que c'est un adversaire qui est coriace, qui est on va dire une sorte de poil à gratter, qui est un petit peu moins bien ces derniers temps par rapport à ça, mais j'allais dire que là le Real a fait le métier et a su réagir assez rapidement, notamment quand il y a eu égalisation, mais on a eu un match abouti, maîtrisé. Et j'ai envie de dire justement donc de la maîtrise enfin à l'extérieur pour ce Real Madrid.
C'est clairement le cas. J'ai trouvé que cette équipe d'Osasuna nous a quand même posé des petits problèmes par moment. Mais comme tu l'as dit, le Real et les joueurs de Carlo Ancelotti ont su répondre de la plus belle des façons. Donc bon, tu commences le match certes dans des dispositions qui sont favorables puisque Vinicius ouvre le score sur une erreur en défense centrale. Mais derrière, tu sens que Osasuna est quand même une équipe assez coriace puisque elle arrive à se créer des occasions dangereuses et exploiter certaines failles, notamment dans certaines relances du Real Madrid. Je note qu'en première mi-temps, en fait, les joueurs d'Osasuna ont été beaucoup plus, ont posé beaucoup plus de problèmes qu'en deuxième période, parce qu'en deuxième période, le Real a su en fait également exploiter les failles défensives de Osasuna, notamment dans l'axe où il laissait énormément d'espace. Mais c'était surtout une prise de risque des joueurs d'Osasuna de faire un pressing haut. D'essayer de monter le bloc le plus haut possible pour gêner ce Real Madrid. Mais au final, derrière, Brahim, Vinicius ont su exploiter parfaitement les espaces qu'Osasuna a fournis. Et surtout, en fait, moi, ce qui m'a plu dans ce match-là, c'est la performance de Fede Valverde, qui, certes, est... un excellent joueur, on le sait tous, mais là qui est en train de confirmer son niveau par rapport à celui de l'année dernière. Triplé de passes décisives pour Fede Valverde, une passe incroyable pour Dani Carvajal en première période également, et l'Uruguayen qui voilà, méritait en quelque sorte l'homme du match, même s'il a été donné à Vinicius. Et ça, c'est de bon augure hein, pour affronter les prochaines échéances du Real. On espère que aucun des joueurs importants aujourd'hui du Real Madrid ne se blesse pendant cette trêve, afin d'arriver dans les meilleures conditions contre Manchester City.
Oui, clairement, c'est vrai que là, Federico Valverde est l'homme du match pour Guillaume Poma du journal du Real. Alors que la Liga a choisi de donner le titre d'homme du match à Vinicius, auteur d'un doublé, Vinicius qui n'en finit plus de marquer, Vinicius qui n'en finit plus aussi de prendre des cartons jaunes, Vinicius qui va être suspendu lors du prochain match. Donc c'est-à-dire qu'il aura peut-être, sauf blessure, du temps de repos avant d'affronter Manchester City. Abdou, quand on voit un petit peu comment les choses se passent pour ce Real Madrid-là, on voit la belle prestation de Federico Valverde, la belle prestation d'ensemble du milieu de terrain. Et également, ben, j'allais dire que dans ces conditions, c'est difficile, hein, même s'il n'y a pas Jude Bellingham, de pas être, d'avoir de faire le plein de confiance.
Et c'était je pense que tu as en fait insisté sur le fait que ce match-là était un résultat crucial parce que c'est le match d'avant-trêve, tu joues avant tes principaux concurrents, donc c'est la possibilité de creuser un écart et d'envoyer un message, même si eux gagnent dans la foulée, au moins tu sais que tu as fait le job. Honnêtement, ce match-là, moi, il m'a plu. Offensivement, j'ai vu des choses assez intéressantes. Surtout ce côté gauche là, un peu hybride. Alors certes, Camavinga était en 6, mais à l'arrivée, la connexion Camavinga-Vinicius, c'est un point dont on parle très très peu, mais c'est une connexion que j'aime beaucoup. Je trouve que les deux ont une très très belle affinité sur le terrain. Tu le vois dans leurs relais, dans les échanges qu'ils ont entre deux, tout simplement. Je trouve qu'il se passe quelque chose quand les deux sont impliqués dans une action ou dans une construction. C'est un peu pareil que la connexion Vinicius-Valverde, en fin de compte. Et tu es en train d'affiner cette connexion-là juste avant la Ligue des Champions. Ça rappelle des bons souvenirs. Ça annonce aussi de bonnes choses pour la suite. Donc, ouais, à l'arrivée, moi je trouve qu'offensivement, on a fait quand même un très très bon résultat. Défensivement, il y a peut-être des choses qui laissent à désirer parce que mine de rien, t'encaisses deux buts. Et ils viennent pas de nulle part non plus. Le premier, c'est vraiment, on fait une erreur de placement, une erreur de concentration, je ne sais pas trop, mais en tout cas, Budimir, lui, était très très bien placé et surtout, il était dans un angle un peu fermé, mais il arrive à croiser cette frappe-là. Le deuxième but, il arrive en fin de match. Voilà, peut-être que les défenseurs se sont un peu relâchés, mais normalement, l'attaquant adverse n'a pas droit à avoir autant d'espace dans la surface pour vraiment croiser comme il l'a fait sa frappe. Donc voilà, deux, trois petites choses à améliorer, mais dans l'ensemble, je trouve que la prestation contre Osasuna est vraiment solide. Pour ce qui concerne Vinicius, moi, je pense sincèrement que c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'il ne joue pas contre l'Athletic Club, parce que un Vinicius qui va certainement jouer les 180 minutes de la trêve internationale, si tu sais qu'il ne joue pas à l'Athletic Club, et donc du coup tu sais qu'il aura au moins une bonne semaine et demie, voire même 2 semaines complètes avant de jouer Manchester City,
Tout à fait.
moi personnellement je prends. D'autant plus que Jude Bellingham est arrivé à la fin de sa suspension, donc tu vas retrouver Jude Bellingham contre l'Athletic Club en principe. Il aura des fourmis dans les jambes, même s'il aura joué en sélection entre-temps, je pense. Donc, à l'arrivée, c'est un turnover, entre guillemets, imposé. Et c'est pas une mauvaise chose, je trouve.
Mais justement, moi, c'était la question que j'allais poser également, c'est qu'en fait, au fur et à mesure de la saison, on s'est dit que les absents, les blessés allaient être un handicap pour le Real Madrid. Et pourtant, on voit un Real Madrid qui arrive à plutôt bien gérer ces conditions-là. Paradoxalement, ça montre que le turnover imposé, c'est ce qui a fait, on va dire, ce que le Real Madrid puisse concerner un maximum de joueurs, et surtout un maximum de joueurs dans des registres différents. Regardez Fede Valverde, qui la saison passée était, on va dire, aligné plus souvent ailier droit que milieu de terrain. Un joueur comme Brahim Diaz que l'on peut mettre à la place de soit de Vinicius soit de Jude Bellingham. Bon, il y a que peut-être Rodrigo qui n'est pas dans dans ce tempo-là. Après, au milieu de terrain, regardez Tchouaméni qui recule en défense centrale, Camavinga qui est en 6. Tout ce bricolage en fait que l'on a pu voir cette saison qui s'impose à nous, mais fait que le Real Madrid a su trouver les ressources à chaque fois pour pouvoir répondre à des solutions qui, j'estime, je pense, c'est mon avis, hein, que si le coach avait la possibilité d'avoir ses joueurs à 100% tout au long de la saison, eh ben, il n'aurait pas bougé d'un cil. Et donc, du coup, on serait peut-être passé à côté de Brahim Diaz avec peu de temps de jeu, par exemple. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté.
Ah bah c'est ça, hein. C'est ce qui est assez frappant en fait dans la gestion de Carlo Ancelotti. C'est comme tu l'as dit, le mot c'est du bricolage. Par moment, t'as l'impression que c'est ça. Et puis finalement, ben des joueurs arrivent à performer au poste auquel ils sont pas forcément habitués à jouer. Je pense à Tchouaméni qui réalise quand même d'excellentes performances en défense centrale, qui est une véritable solution également contre la plus grosse échéance en Ligue des Champions, parce que Nacho donne pas forcément toute la satisfaction. Derrière ton animation offensive aussi, même sans numéro 9, eh ben, t'arrives quand même à créer beaucoup de choses intéressantes footballistiquement parlant. T'as de la versalité.
Versatilité.
Versatilité, excuse-moi. Et offensivement, donc les joueurs peuvent être permutables et semblent aussi à l'aise à un poste ou à un autre. On pense Rodrigo qui n'est clairement pas dans le bain, mais derrière quand il passe à gauche, ça peut être une solution de remplacement à Vinicius. Brahim dans l'axe, Brahim à droite, t'as Joselu. Joselu absent de dernière minute d'ailleurs hier, j'ai pas trop compris pourquoi, j'ai pas suivi d'ailleurs, petite parenthèse.
Il me semble
Mais voilà,
qu'il a eu une petite maladie.
Ah, okay. Parce que moi, je pensais même qu'il allait être titulaire. C'est un match qui était fait pour lui. Hein.
Ouais, effectivement. Aussi, ouais. Donc, tu vois, tu as toute cette variété de profils offensivement. Et on pense aussi au milieu de terrain où tu as énormément de solutions. Arda Güler, qu'il ne faut pas oublier également. Donc, tu as tout ce qu'il faut en fait pour bien performer. En tout cas, c'était pas gagné puisqu'en début de saison, on avait d'énormes doutes. Mais je tire mon chapeau en tout cas à Carlo Ancelotti qui arrive malgré tout à répondre à ces challenges-là qui sont pas évidents à gérer. Hein. T'as des titulaires clés qui sont absents et pourtant on est sur 23 matchs sans défaite depuis l'Atlético en septembre, en tout cas en Liga. Et ça, c'est vraiment de bon augure.
Ah, c'est de bon augure et c'est ce qui fait dire hein, que le titre ne peut quasiment pas nous échapper. On revient un petit peu sur ben voilà le questionnement que l'on peut avoir par rapport à notre ami Rodrigo Goes qui semble voilà il a eu 7 sur 10 pour Guillaume Pommade pour le journal du Real. Il dit c'est tellement frustrant de voir Rodrigo échouer face au but. On sent que les choses ne vont juste pas dans son sens. Il a tout bien réalisé, hormis la finition. Pour un attaquant, c'est un peu chiant quand même. Mais après, c'est d'être dans cette situation-là. Et surtout, voilà, on se pose la question. C'est de savoir à quel moment, alors qu'on a vu un Rodrigo entre octobre et décembre, qui était performant dans toute perspective. Alors que là, par exemple, là, depuis le mois de janvier, on a un Rodrigo qui peine à mettre un pied devant l'autre. On va encore redire les mêmes choses. Là, ça fait 3 ou 4 épisodes qu'on dit les mêmes choses. Je pense que même le plaidoyer de Abdou est devenu obsolète parce que, effectivement, il n'a pas. Il y avait un plaidoyer en sa faveur, je crois, pour dire oui, il faut lui laisser du temps, il faut être patient par rapport à tout ça. Donc, je dis ah.
Non.
Donc là, du coup, vous êtes complètement à côté. On a donné un sursis et j'allais dire votre client n'a pas été à la hauteur du sursis, Abdou.
Ouais, pour l'instant. Mais comme tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un de toujours positif. Je le dis. Écoute, il nous a sorti 2 mois et demi exceptionnels à la fin de la première partie de saison. S'il me ressort les mêmes à la fin de la seconde partie de saison, on va fermer les yeux. Concrètement, on sait que le contenu aura des choses évidemment améliorées. Mais...
A-t-il le niveau pour être performant à ce moment précis de la saison où les matchs coûtent cher, on va dire, et rapportent gros aux équipes ou leur fait perdre beaucoup?
Écoute, on le saura après la trêve, parce que finalement, quand il a eu ce momentum-là où il était pratiquement intouchable, c'était après la trêve d'octobre. Donc, on verra ce que ça donne. Je ne sais pas ce qui va se passer durant la trêve, je ne suis pas devin non plus. Mais si on peut avoir droit au même momentum ou à la même prise de conscience en sélection qui rejaillit sur son football en club, moi je dis pas non. De façon générale, même si on est obligé de dire ce qui va et ce qui ne va pas, j'ai pas envie non plus d'enterrer Rodrigo parce que bon, il a le même âge que Vinicius, mais dans l'expérience quand même, je trouve qu'il est beaucoup moins expérimenté que son comparse. Donc du coup, tu peux pas vraiment attendre la même chose. Tu sens que lui, pour le coup, il est beaucoup plus encore dans l'apprentissage que le numéro 7 du Real Madrid, concrètement. Donc voilà, moi j'ai quand même envie d'être encore un petit peu patient avec lui, en sachant que pour moi, un joueur arrive à sa maturité à partir de ses 24-25 ans, donc je veux bien lui laisser encore un peu de marge, mais il en aura moins que cette saison, et il en aura encore moins qu'avant de façon générale.
Mais on peut imaginer, en fait, on peut pas, j'ai envie de dire, douter de la qualité de Rodrigo de façon générale. On sait que c'est un joueur qui a un talent fou, qui a un potentiel qu'il a pas encore exploité à 100%. Et puis surtout, regardons l'histoire, j'ai envie de dire. Regardons des cas de joueurs qui étaient en difficulté dans leur jeune âge au Real Madrid et qui sont devenus des légendes. Je pense à Karim Benzema, les gars. À ce moment-là, si c'était Karim Benzema, j'ai envie de dire, on est en train de critiquer. Oui, il faut critiquer, bien évidemment. Il n'est pas bon. Tout le monde le voit. Enfin bon, en tout cas, il marque pas. C'est surtout ça.
Décisif.
Voilà, dans le jeu, ça reste quand même qualitativement très bon. Mais effectivement, tu vois, on prend l'exemple de Karim Benzema. Il est passé par des phases. C'était limite, il y a certains supporters qui disaient que c'était catastrophique, qu'il n'avait pas sa place au Real Madrid, que c'était une arnaque des Ronalp. Mais au final, regarde Karim Benzema, la carrière qu'il fait au Real Madrid derrière. C'est exceptionnel. Donc, tant que le joueur, j'ai envie de dire, ne passe pas justement cette barrière, comme Abdul disait, des peut-être 25, 20, 26 ans, 27 ans, si tu vois que vraiment là, il n'arrive pas, effectivement, il va falloir penser à faire quelque chose avec Rodrigo. Mais jusqu'à présent, il faut lui laisser le temps. Et bon, c'est vrai qu'il en aura moins du temps avec les potentielles arrivées cet été. Mais on peut pas douter de ce joueur-là. Il nous a déjà sorti des matchs incroyables, des éliminations, des moments où tu as la chair de poule. Il nous l'a déjà fait. Donc, on sait qu'il a ces qualités-là. Maintenant, à voir comment ça va se passer avec lui. Mais je pense qu'il faut lui laisser le temps, comme je rejoins Abdou là-dessus.
D'accord, bon, après, c'est vrai que le temps, il va commencer à en manquer quand les matchs vont s'enchaîner, hein. C'est vrai qu'il y a ce petit temps où, après la trêve, il y a un match, puis après un autre, il y a 10 jours de récupération avant de pouvoir affronter Manchester City en Ligue des Champions. Et après, derrière, oui, on va être sur un rythme de match tous les 3 jours qui va se remettre en place jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, dans quel état d'esprit il faut l'aborder, parce que c'est dommage, hein, parce que Rossellou n'a pas été aligné, alors que je pense que c'était le moment de pouvoir le mettre sur le terrain pour faire souffler Rodrigo, lui dire, bon, petit, c'est un peu compliqué pour toi, souffle un peu. Mais voilà, donc il a joué, donc il a joué les matchs, justement, donc comme il a joué l'intégralité de la rencontre en plus, hein, donc dans ce sens-là. Mais on va dire qu'il y a une petite frustration parce que on n'a pas tenté autre chose alors qu'il y avait déjà la marge nécessaire, puisque regardez Arda Güler, encore une fois, moi c'est pas par rapport au joueur en lui-même, hein. Moi j'ai mon avis sur lui et ça va pas bouger malgré le fait qu'il ait pu marquer presque un but tout fait, mais avoir peut-être de donner plus de temps de jeu aux joueurs pour pouvoir, on va dire, faire tourner l'effectif et faire en sorte que certains puissent psychologiquement comprendre la signification d'une sortie
Ouais,
du terrain. Donc,
exact.
là, par exemple, Arda Güler aurait pu rentrer à la place de Rodrigo, histoire de faire comprendre quelque chose à Rodrigo et insuffler un nouveau style, tu vois.
C'est un peu dur, Gilles, de faire rentrer Arda Güler à la place de
En tant que
Rodrigo.
titulaire, hein. Moi je parle même
Ah.
sur le terrain. Quand il y a
D'accord,
eu des sorties à la
ok.
72e minute, tu le fais,
Ok.
voilà, tu dis, bon, Rodrigo, bon, s'il n'a pas
Ouais.
marqué, tu vas
Ouais.
sortir un peu, hein, tu vas souffler, ça va aller.
J'avais mal compris. Je pensais que tu voulais dire Arda titulaire direct et tout, à la place de
Ah,
Rodrigo.
mais
Le
après.
message que tu envoies au Brésilien, il serait vraiment.
Mais après, à un moment donné aussi, Arda Güler, il est bien sympathique, mais il va pas passer sa vie à être sur le banc. Donc,
Ouais.
s'il est censé avoir le niveau qu'il doit avoir, il doit être prêt à jouer 90 minutes. Et s'il
Ouais,
n'est
c'est
pas prêt à jouer à 90 minutes, c'est que je suis désolé pour toute la communauté turque et tous ceux qui suivent le Real Madrid, c'est qu'il n'a pas le niveau pour jouer au Real Madrid aujourd'hui.
Ouais. Non, mais ouais. Non, c'est ça.
C'est ça qui est embêtant. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de mettre Rodrigo sur le banc si Rossellou n'est pas là, parce que Arda Güler n'a pas l'étoffe de 90 minutes de Liga. Oh, c'est un sacré questionnement, hein, qui a. On voit que le petit a le talent, mais est-ce que c'est un talent qui peut s'exprimer au Real Madrid de façon durable? Ça, c'est ça la question que j'ai envie de vous poser aussi.
Ah bah ça
Bah, si
c'est...
tu peux poser la
Vas-y,
question pour tous les talents passés par le club.
vas-y.
On a toujours cette incertitude-là, mais
Bien
à
sûr.
l'arrivée, il y a des signes, il y a des gestes, il y a des trucs qui te font dire, ouais, quand même, c'est au-dessus. Il y a Pas forcément du Castilla, mais tu vois, typiquement, tu lis les déclats de Toni Kroos et Luka Modric qui en disent que du bien, de sa volonté d'apprendre, du fait qu'il soit sérieux. T'as pas un entourage qui va s'épancher dans la presse comme celui de Rodrigo. Non, il y a des trucs qui te font dire quand même que non, Arda Güler, le petit là, moi je vous dis, hein, depuis qu'on a commencé à faire le lien avec le Real Madrid, moi je vous dis que ça va péter, et ça va péter. Il n'y a aucune raison pour que ça ne pète pas. Je suis
Ah.
totalement serein et totalement convaincu que ça va parfaitement le faire.
En termes de talent et de sérieux, tout ça, je rejoins Abdou. Après, pour devenir vraiment un joueur quasi indiscutable ou important du Real Madrid, il y a un gros chemin quand même à faire, que ce soit mentalement. Il faut voir comment le joueur réagit dans les moments difficiles. Faut voir aussi en termes de blessures, parce que ça, t'es jamais épargné par ce malheur-là. Mais juste, voilà, je mets mon bémol là-dessus, mais effectivement, quand tu regardes l'état d'esprit d'Arda Güler, il y a quelque chose qui fait que tu as l'impression que le gars, il va vraiment, s'il est épargné par blessure et aspect psychologique, j'ai envie de dire, négatif, le gars, il a toutes les raisons de péter au Real Madrid. Voilà.
Et même psychologiquement, au vu de ce qu'on dit de lui et de l'actuel vestiaire du Real Madrid, il y a très peu de raisons finalement pour que psychologiquement ça se passe mal. Moi, je pense que il est dans l'environnement idéal pour lui, pour un joueur de son caractère de base, qui a l'air d'être plutôt discret, plutôt réservé, mais voilà, une fois qu'il est ballon dans les pieds, bah là, c'est une autre personne. Ça, on en a vu des milliers, des footballeurs comme ça. Et je te dirais aussi simplement qu'il y a le temps, tu vois, rien ne presse, encore une fois. Même si, bien sûr, on aimerait en voir plus, mais à l'arrivée, il ne faut pas oublier qu'il n'a que 19 ans. C'est encore tout jeune. Et même si on va venir me raconter qu'un tel a explosé à 17 ans, un autre à 18 ans était déjà
Ah,
titulaire
mais
indiscutable.
moi, j'allais te raconter que mon idole absolue au Real Madrid, oui, a commencé à 17 ans et 4 mois.
Oui, mais encore une fois, c'est un autre contexte. Tu vois, hein, c'est un autre contexte, et puis même là, ça ne veut pas dire forcément que c'est quelque chose de vraiment sain pour un joueur. Parce qu'aujourd'hui, surtout aujourd'hui, les jeunes joueurs, pour moi, ont besoin d'être préservés. Ça a toujours été le cas, mais encore plus aujourd'hui. D'autant plus que si tu pars sur la valeur humaine, un joueur de 17 ans, de 19 ans, c'est vraiment encore un gamin. Alors que à l'ancienne, c'était peut-être un peu plus des hommes déjà, tu vois. C'est pas la même
C'est pas la même
considération que
génération.
tu vas avoir.
Et
C'est
ça,
pas la
le
même
Real Madrid,
génération, tu vois.
ouais. Et ça, le Real Madrid, Abdou, il le gère très bien, comme tu le dis. Parce qu'ils savent, tu peux pas lancer un joueur aussi jeune dans le bain des matchs, de la pression que tu as quand tu portes le maillot du Real Madrid. Il faut y aller progressivement. C'est ce que le Real Madrid a fait avec beaucoup de ses jeunes talents. Et des fois, quand il n'y avait pas le choix, je pense notamment à Vinicius qu'il fallait aligner dès sa première année,
Ouais, dès
parce que t'es pas
2008-2019, ouais.
Cristiano Ronaldo, bah oui, tu le mets et il prend responsabilité, etc. Mais le cas idéal, c'était un risque quand même, hein, Vinicius. Tu le balances comme ça dans des matchs. Au début, c'était pas très glorieux. Et c'est normal, le joueur doit aussi apprendre à gérer son football sur le terrain. Mais si tu as la possibilité d'y aller pas à pas progressivement avec tes jeunes talents pour pouvoir les polir petit à petit, c'est ce qu'il faut faire. Et le Real, ça, c'est une politique qu'ils ont et qui mettent très bien en place. Ils arrivent à le mettre en place.
Après, c'est une question de performance, hein, qui fait que progressivement, ben voilà, donc on voit une dynamique qui se met en place et après derrière on évince d'autres personnes. Hein, c'est vrai que l'exemple que je vais donner, c'est un exemple qui date il y a 30 ans, certes, mais qui est très important. C'est celui de Raúl González Blanco qui, sur sa première saison, lui arrive à être décisif assez rapidement dans ses premiers matchs et en n'étant pas encore majeur et après derrière qui pousse progressivement sur le banc une légende absolue du club du Real Madrid avec Emilio Butragueño pour après derrière prendre monter en gamme et après derrière faire la carrière qu'il a faite. Donc c'est vrai que il y a l'encadrement, mais à un moment donné, il y a la personnalité, vous tapez du poing sur la table pour dire merde, c'est ma place. je veux réussir, je veux prendre des minutes, et nique sa mère celui qui est devant moi. Donc pour Arda Güler, si c'est Rodrigo, si c'est Rossellou, si c'est Brahim Diaz, si c'est je sais pas qui, il faut montrer de la personnalité et faire en sorte de dire que voilà quoi, maintenant ces mecs-là, ils vont me regarder depuis le banc de touche.
Pour moi, là, et une scène qui montre un peu cet exemple-là, c'est en Copa, quand il discutait avec qui voulait frapper. Je crois que c'est Toni Kroos qui voulait frapper le coup franc, peut-être. Et t'as Arda Güler qui suppliait le tireur, en tout cas, de lui laisser la balle. Le petit vient de... Enfin, c'est son premier match. Normalement, un gars normal, tu vois, qui a pas la niaque ou qui est plutôt réservé comme le caractère de Güler, c'est « vas-y, je laisse les grands faire et je laisse frapper ce coup franc ». Mais non, lui, il a été chercher ce coup franc, il a été, et on l'a vu, c'était une scène assez marrante, discuter longuement avec le tireur pour essayer d'avoir son tir, qu'il a réussi à obtenir, il me semble. Bon, derrière, ça finit pas en but, mais c'était une action assez dangereuse pour le... Bah oui, mais...
Et oui.
Il a du culot, j'ai envie de dire, tu vois, et ça, il le faut, il a ce caractère.
Il y a de la graine de joueur, hein. Je veux pas citer de noms d'époque, on va dire qu'encore une fois, j'ouvre les grimoires d'histoire, etc. Ou, première sélection, il y a un coup franc, il y a le capitaine qui est le tireur habituel, décale-la-moi, et ça fait but. Et là, effectivement, donc là, on voit, non, voilà.
Ça remonte à très très loin, ça. Parce qu'on n'est pas dans les années 70 par hasard.
Oui, Abdou, tu m'as capté.
Ah. Et vous parlez de qui là ? J'ai pas la ref.
De Michel Platini.
Donc voilà, donc c'est, et là on voit en gros que voilà, il y a quelqu'un qui arrive et qui veut renverser, qui renverse la table et qui progressivement va s'imposer comme le guide. Et c'est ça justement, donc les joueurs que l'on est amené, qu'on est amené à importer de l'étranger. Qu'on doit prendre plutôt que des joueurs qui apprennent et qui sont là. S'il y a ça, je prends mes petits du Castilla, des jeunes Espagnols, et aussi ils ont envie d'être encadrés par Toni Kroos, par Luka Modric, par Vinicius Junior ou d'autres personnes. C'est de ça dont il faut aussi avoir à l'esprit. C'est vrai qu'il y a ce choix-là politique du Real Madrid d'acheter des jeunes, mais ces jeunes-là passent devant d'autres jeunes. Et quand ils passent devant d'autres jeunes, ils doivent être tout de suite plus matures, ou on va dire la différence doit se faire nettement avec ceux qu'on a déjà, on va dire, dans nos équipes réserves, par exemple.
Mais de toute façon, pour revenir sur Arda Güler, je te dirais que la différence se fera simplement par son profil et ce qu'il apporte sur le terrain. Il a une qualité et il a un profil qui sont, un, très rare, et deux, actuellement parmi les jeunes qui sont soit en lien avec le Real Madrid, soit qui sont déjà présents au club, personne n'a le profil d'Arda Güler. Donc déjà, pour moi, il a un argument de taille pour les prochaines années. Ensuite, forcément, Toni Kroos et Luka Modric vont prendre leur retraite. Donc, à un moment donné, il va prendre en galon, il va prendre en épaisseur dans l'effectif. Et puis surtout, il faudra voir aussi, avec le prochain coach, dans quelle disposition il va mettre Arda Güler, est-ce qu'il va le mettre au centre de son projet, comment est-ce qu'il va redéfinir l'équipe à son goût, etc. Il y aura plein de questions à se poser par la suite, mais à l'arrivée, moi je pense que Arda Güler, c'est juste une question de temps avant que vraiment il fasse son trou. Parce que même quand tu es attaquant, juste le jeu de passe qu'il a et ce nif-là qu'il a dans le jeu, tu es attaquant, tu as envie de jouer avec ce genre de joueur-là, donc moi, je me fais vraiment aucun problème pour lui, ni aucun souci. C'est juste une question de temps.
Oh, le temps nous dira hein, ce qu'il en sera, et on aura l'occasion de pouvoir aussi voir les exploits ou pas d'Arda Güler. Je pense d'ici la fin de saison, je pense qu'il aura plus de temps de jeu si la Liga est assurée dans le courant du mois d'avril ou sinon sur la saison prochaine. Donc ça, c'est vrai que ça va être important. Mais avant ça, il y a la Ligue des Champions. On en a parlé en début de podcast. Il y a cette confrontation qui va avoir lieu contre Manchester City pour une revanche, entre guillemets, de ce qui s'était passé l'année passée où ça a été difficile sur le match retour. C'est contre le champion d'Europe en titre. Le Real Madrid, pour moi, je vais donner mon point de vue et je ne dis pas qu'il est le favori, mais il est dans une position qui est favorable. Quart de finale de Ligue des Champions depuis maintenant 2011, le Real Madrid est toujours, a toujours passé ce stade-là. Deuxième point, la dernière fois qu'on a été battu en quart de finale de Ligue des Champions, c'était il y a 20 ans. J'allais dire oui, 20 ans, oui, il y a un peu de jours près, là, donc on est dans la même période. Et troisième point, le Real Madrid, quand il est opposé au tenant du titre de la Ligue des Champions, ça se passe généralement plutôt bien. Est-ce que, en dépit de la qualité de l'équipe de Manchester City, qui n'est plus à démontrer et qui est encore effectif cette saison, ils ont gagné en plus en coupe là, contre Newcastle, est-ce que je ne suis pas dans un excès d'optimisme où on va dire, le poids de l'histoire, on va dire, rend légitime mon point de vue de dire mais le Real va se qualifier.
Ton point de vue, il est tenable. On pourrait se dire ça. Et l'histoire nous a déjà montré que on pouvait parfois lui faire confiance, mais aussi parfois ne pas lui faire confiance, justement. Et pour moi, en fait, je serais pas aussi confiant que ce qu'on a pu exprimer, par exemple, dans notre groupe WhatsApp en privé.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est quand même Manchester City, que c'est une très belle équipe de football, complet sur toutes les lignes, de l'attaque jusqu'à la défense, qui sont aussi dans une bonne dynamique. Donc il n'y a pas de raison de voir un Manchester City peut-être affaibli à certains niveaux. Bien sûr, ils ont leurs failles, mais globalement, ça reste peut-être la meilleure équipe du monde en termes de jeu actuellement. Le Real est d'ailleurs, pour moi, encore on connaît ces lacunes-là, donc nos manquements sur le terrain, notamment sur le poste de numéro 9, on va pas refaire l'histoire. Et nous, en parallèle, on a aussi quelques blessures importantes. Donc bon, quand on regarde ça, on sait qu'on est sur une excellente dynamique. City n'est pas non plus dans une mauvaise dynamique, donc ils sont corrects. Ça me permet d'être un peu plus réservé quant à l'issue de la rencontre. Néanmoins, je trouve que c'est une excellente opportunité pour le Real de démontrer justement cette histoire du club et toutes les valeurs qu'on a dans le madridisme, et notamment celui de, ben, en fait, tu luttes jusqu'à la fin, et j'ai envie de dire. Voilà, on verra comment ça se passe, mais je suis très content qu'on tire Manchester City parce qu'il y aura évidemment du spectacle et que le football sera en rendez-vous. Après, sur l'issue de la rencontre, ça reste à voir. C'est un match de football. On ne peut pas forcément deviner qui va gagner, surtout dans ces conditions-là. J'attends de voir la rencontre et notamment le match aller, comment ça va se passer. Ça va être déterminant.
Ah ben non, c'est vrai que ça va être très très déterminant. Ben, comme disait Abdou tout à l'heure, on ne sait pas où est-ce que va se jouer le match aller. J'ai l'impression que c'est une organisation. Si c'était en Coupe d'Afrique, là, les gens auraient sorti leur grande gueule pour dire oui, comment ça se fait que
Ils l'ont
bon,
sorti, hein, des gens.
voilà que oui, on attend la veille de la rencontre pour savoir si on joue à City ou si on joue à j'allais dire si on joue à Manchester, si on joue à Madrid. Alors que logiquement, normalement, le tirage au sort prévoit que ce soit le Real Madrid qui reçoive le match aller et le match retour ait lieu du côté de Manchester City comme l'année dernière. Mais étant donné que l'Atlético de Madrid joue le même jour du côté face au Borussia Dortmund, il pourrait y
Non, il
avoir
joue la
une
veille.
inv... Pardon?
Il joue la veille.
Ils jouent la veille,
Et du
pardon, ils
coup,
joueront la veille, effectivement.
le
Donc
nœud
de
de
se
tout
dire que,
ça.
effectivement, c'est vrai que pour ceux qui ont joué dans Football Manager,
Mais.
On peut voir que pour des raisons de sécurité, quand il y a deux équipes du même ville, eh ben le par rapport au tirage au sort, on inverse, on va dire, le sens, puisqu'on ne peut pas jouer le même jour pour des raisons de sécurité dans la même ville. Ce
Il
qui
faut
est.
préciser une chose, on inverse toujours la deuxième affiche. Parce
C'est
que
ça.
celle qui est tirée en premier, du coup, elle ne
Reste.
peut pas être modifiée.
Elle peut pas être
Parce que
modifiée,
oui.
tout à fait.
Et du coup, parce que oui, on entend des, oui, regardez, Encore une corruption
Ouais, bien
de la
sûr,
part du
ouais.
Real Madrid, corruption en faveur du Real Madrid de la part de l'UEFA,
Oui,
en
bien
sachant
sûr.
que Ceferin ne peut pas blairer Florentino Pérez. Mais bon, pourquoi pas après tout, hein, on sait jamais.
Ouais.
Mais tout ça pour vous dire que du coup, oui, pour des questions de sécurité, et quand on connaît un petit peu la Guardia Civile, qui peut être très très vite débordée, c'est peut-être pas une bonne idée à 100% que t'aies l'Atlético de Madrid et ses supporters le mardi et le Real Madrid et ses supporters le mercredi, comme ça, enchaîné sur les 2 jours qui se suivent. À mon avis, je pense que ce serait peut-être optimal d'inverser les bah du coup Real Madrid Manchester City. Mais après,
Comme en 2022, quoi.
si c'est pour le compte de la magouille du Real Madrid, pourquoi pas après tout, hein, nous aussi on prend, tu vois.
Ah, clairement, mais ça, c'est vrai que pour moi, c'est tellement. Je vais dire, ouais, non, c'est un détail, parce que moi, je me dis, quand on est en quart de finale de Ligue des Champions, il faut taper tout et n'importe qui, donc ça, c'est pas forcément le souci, et quelles que soient les circonstances. Donc, le Real Madrid a déjà 6 allégeants en tabassant des tenants du titre chez eux et au match retour. Comme ça peut être aussi le cas aussi de le faire à la domicile au match retour également. Donc pour ça, on a connu toutes les configurations possibles, on a toute cette expérience-là possible. Mais c'est vrai qu'en 2022, quand on bat City, c'est on le bat chez nous au Bernabéu. Et quand on prend 4-0 en demi-finale, c'est on prend 4-0 chez eux au match retour. Donc c'est vrai que ça va sembler être un match qui va être serré sur le match aller et sur le match retour. Ben voilà, il peut se passer de, ça va être l'atmosphère du public, mais quel public va pouvoir accueillir ce match retour? Ce sera toute la question du podcast. Enfin, du podcast, non, de cette double confrontation. Et de cette double confrontation, ça me permet aussi d'ouvrir sur, on va dire, les bonnes nouvelles que l'on a reçues de la part de notre effectif, où on a le retour maintenant de certains blessés de longue date, à savoir Thibaut Courtois et surtout Eder Militao, qui au cours de cette semaine sont revenus à l'entraînement collectif et qui sont en train d'entamer une course contre la montre pour pouvoir être prêts pour ces quarts de finale. Abdou ou Hichem, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que c'est possible de les avoir avec nous sur ce match-là? Et surtout, est-ce qu'ils seront compétitifs pour être là le 9 avril, le 8 ou 9 avril prochain?
Pour moi, c'est... Ah, vas-y, Ab, donc je te laisse, vas-y.
Pour moi, ils seront simplement pas prêts. Peut-être que il y aura eu des entraînements collectifs. Là, il y aura eu toute la trêve où ils vont s'entraîner avec ceux qui restent et les petits jeunes. Mais non, ils seront pas prêts et il faut pas compter sur eux pour ces échéances-là parce que tu as besoin d'être à ton top physiquement, tu as besoin d'être à ton top techniquement, tu as besoin d'être totalement clair et tu reviens de blessure, tu reviens des croisés, t'es pas au meilleur de ta forme non plus. Et je dis pas qu'il faut les enterrer. Mais voilà, moi pour moi, ce qu'on a vu typiquement, le fait qu'on voit autant d'Aurélien Tchouaméni en charnière centrale contre Manchester City, enfin c'est pour préparer Manchester City, parce que tu sais que Nacho, ça ne va pas pouvoir le faire contre un Erling Haaland ou un Alvarez dans un bon jour. Et encore, faut voir si on réussit à associer les deux. Enfin voilà, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été mises en place en amont. Camavinga en 6 aussi, forcément, c'est pour préparer cette rencontre-là. Pour moi, il y a des choses qu'on peut déceler dans les choix de Carlo Ancelotti qui nous font dire, OK, il pense peut-être déjà à Manchester City, ou au moins, il y a des choses qui sont en place. Tu sais que tu vas pouvoir compter dessus parce que tu as trouvé une certaine consistance, une certaine cohérence à l'instant T avec ça. Donc, tu dois partir face à Manchester City avec ça. C'est ce que je te dirais. Et pour compléter davantage l'importance de plier rapidement la Liga et de la tuer comme a fait le Barça l'année dernière, c'est que comme en 2021-2022, on remporte la Liga à la J34 ou à la J35 de mémoire, et derrière, tu as 4-5 matchs de fin de championnat où tu es en roue libre parce que tu es déjà champion. Et moi, c'est sur ces matchs-là où éventuellement, j'attendrai un Militao, j'attendrai un Courtois, j'attendrai un Guerrero titulaire, un Ceballos, etc., un Franck Garcia. C'est là où tu auras vraiment l'occasion de faire tourner, de concerner tout le monde, de faire une mini pré-saison, une mini préparation physique, si tu es toujours en Nice en Ligue des Champions. Donc à l'arrivée, tu vois, c'est plus dans cette période-là qu'il faut vraiment compter sur le retour des deux, histoire de se dire, ok, les deux sont revenus, ils sont là, ils ont eu des minutes, ils ont touché leur médaille de vainqueur. Après, le reste, il faut pas compter sur eux. C'est
D'accord.
tout ce
Donc,
qu'on doit attendre.
du coup, en gros, c'est faire en sorte de pouvoir les concerner dans la rotation qui va être nécessaire pour faire souffler les titulaires et pour que progressivement, qu'ils soient plus concernés par la préparation de la saison prochaine que sur cette saison-là où ils vont avoir leur
C'est ça.
utilité, mais pas sur les matchs clés décisifs, hein.
Ben non, parce
Bah,
que
clairement, tu vas
ça, c'est
enchaîner
une erreur.
Manchester City, Classico. Tu vas pas jouer à un Militao qui n'a pas de minute de jeu depuis le début de saison.
Ah oui. Oui, Hicham?
Non, mais c'est ça, c'est que ça serait une erreur. On repense au cas Sergio Ramos contre Chelsea en demi-finale de Ligue des Champions, qui revenait de blessure, d'une longue blessure musculaire, il me semble, qui avait été aligné dans un match que tu décris très souvent et qui est encore plus décrié par Johan, où Ramos en fait revient en tant que titulaire à la place d'Eder Militao, et on sait la catastrophe que c'était lors de ce match-là. C'est une erreur de faire revenir des joueurs qui viennent qui reviennent en tout cas de blessures, qui n'ont pas de minutes assez importantes ou de gros matchs référence sur la saison. C'est trop tôt pour eux et c'est tout à fait logique en fait qu'ils soient sur le banc, qu'on ne les considère. J'ai même pas envie de les considérer. Pour moi, ils sont encore un peu absents. Tu peux les rentrer que si vraiment t'es dans une galère pas possible ou t'as pas le choix. Mais même comme ça, faut savoir que ça serait extrêmement dangereux pour le Real Madrid, pour le joueur et sur le terrain. Donc voilà.
Oh non, clairement, je partage votre avis. Hein. C'est vrai que on va beaucoup parler de bonnes nouvelles pour pouvoir les récupérer en Ligue des Champions. On commence à voir qu'il y aura des matchs amicaux qui vont être organisés pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient prêts pour. J'ai dit ouais, non. On va pas commencer à faire des choses inconsidérées sous prétexte qu'on peut récupérer des joueurs de premier plan parce que c'est le meilleur moyen déjà un de les griller. En les faisant revenir trop vite pour d'éventuelles rechutes, mais surtout qu'ils ne présentent pas le niveau escompté et que ça ait des conséquences aussi sur la suite de leur carrière au Real Madrid. Hein, c'est vrai que l'exemple de Sergio Ramos dont parlait Hichem conditionne par-dessus tout, on va dire, le fait que la prolongation n'ait pas été revue au moment où il souhaitait peut-être revenir à la table des négociations. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Peut-être qu'on fera la lumière sur tout ça à un moment donné. Mais voilà, c'est se dire que si par exemple Courtois revient, il n'est pas forcément donc dans sa meilleure forme et qu'après derrière il prend un peu de casquette, on va dire quoi? Courtois est bidon. Alors que non, il a juste été en avant sur sa récupération de blessure. Et qu'il a tout fait pour pouvoir revenir, alors qu'il n'était pas forcément dans les conditions. Mais voilà. On prend cette bonne nouvelle, justement, donc avec toutes les précautions possibles, et on va voir comment Carlo Ancelotti va gérer ça. Je pense qu'il gérera ça d'une main de maître pour que derrière les joueurs soient tout le maximum concernés et puissent servir dans toutes les quêtes et toutes les luttes qu'on va avoir d'ici la fin de saison.
Juste une question rapidement
Dis-moi,
pour
Abdou.
revenir sur Manchester City. Vous les gars, vous imaginez comment le match, enfin du coup, la confrontation à venir? Est-ce que par rapport à l'année dernière, vous voyez le Real Madrid être capable justement de remporter cette fois-ci le match aller et assurer le résultat au retour, si on peut parler de assurer le résultat?
Assuré. Je sais pas, moi je suis toujours de cette tradition où en Ligue des Champions, même si on voit de plus en plus des résultats qui se construisent et se consolident dès le match aller, pour moi, on ne se qualifie jamais au match aller. Pour moi, le match aller doit être, on va dire, on doit se mettre dans les meilleures conditions pour que le match retour puisse te permettre de te qualifier. C'est pour ça que c'est important de savoir où est-ce qu'on va jouer, pour savoir dans quelle mesure on peut être en course à l'issue de ce match aller. Si après le match en Angleterre on va dire, à portée Manchester City est à portée de fusil, le match retour, où tu dois te qualifier ou que tu dois, on va dire, fournir une prestation de haut niveau pour pouvoir passer le prochain tour, ben, tu la fasses, quoi. Donc, moi, je pars vraiment sur cet aspect-là, de se dire que là, le match aller, il faut vraiment que. Je ne dis pas qu'on limite la casse, parce que c'est ce qu'on avait tenté de faire en 2022 contre le Paris Saint-Germain. On a fait un match dégueulasse. J'insiste dessus, le match aller au Parc des Princes. Voilà. C'est, on va dire, le fait d'être à un but d'écart simplement, comme contre City aussi en demi-finale en 2022, ben, ça te donne la possibilité de tuer au match retour. Et quand vous avez des équipes qui sont confrontées au Real Madrid et qui sentent que le Real Madrid veut les tuer, ils sont plus déstabilisés qu'autre chose. Donc, voilà. Tout dépendra donc de comment on abordera la rencontre, mais n'abordons pas la rencontre en se disant qu'il faut se qualifier dès le match aller.
Ah, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense que justement, en fait, il y a quatre mi-temps sur ce match-là. Et pour moi, les deux mi-temps les plus importantes, ça va être la première mi-temps de chaque match. Parce que concrètement, il peut se passer énormément de choses en seconde période. C'est souvent, voilà, tu t'adaptes à ce qui s'est passé par rapport à la première période. Alors que tu vois, les 45 premières minutes, concrètement, dans chaque match, c'est ce que je pense. C'est qu'en fait, les 45 premières minutes d'un match, elles correspondent au plan du coach. Si tu veux voir quelle est l'approche d'un coach, ce qu'il tente de faire, ce qu'il veut mettre en place, pour moi, c'est sur les 45 premières minutes parce que tu démarres le match, il y a 0-0. Donc, qu'est-ce que tu as prévu pour ce match-là? Comment est-ce que tu comptes, et quelle approche tu décides d'adopter? Comment est-ce que ta charnière, comment ta défense va se comporter? Comment ton milieu terrain va se comporter? Comment tes attaquants vont se comporter? Donc, dans cet aspect-là et dans cette optique-là, moi, je me dis vraiment que les deux premières mi-temps, donc aller et retour, c'est là où on saura tout de suite si le Real Madrid est prêt pour Manchester City. On saura si le Real Madrid va se qualifier ou non. Après, voilà, la seconde période, bon, bah, par exemple, tu as concédé un but ou deux. Bon, tu fais un changement offensif ou bien tu restructures ta défense. Voilà, c'est. Tu t'adaptes au gré du match, tu lis le match comme il doit se lire et tu essayes d'influer sur le résultat. Donc vraiment pour moi, je me dis, le match aller, on doit s'imposer avec au moins deux buts d'écart. Un 3-1, tu vois, je
Ah
pense que ce
d'accord.
serait
Ah oui,
un très bon résultat parce que j'imagine pas City ne pas marquer au Bernabéu, mais il faut que tu creuses l'écart quand même.
voilà.
Peut-être
Ah
trois
bon,
buts d'écart, ce serait exceptionnel, mais je ne vois pas mettre 3-0 non plus. Donc en vrai, 3-1, je pense que ce serait un résultat assez bon. Et au vu du socle défensif que tu es en train de construire, Camavinga, Rüdiger, Tchouaméni, qui à trois sont en train de trouver une très très belle synergie pardon, ben tu peux espérer quand même tenir le choc au retour. Moi, ma seule inquiétude, ça va être Toni Kroos face au pressing de Manchester City, hein. C'est tout. Mais sinon, moi je pense que cette année, par rapport à l'année dernière, un, on a appris nos erreurs, et deux, surtout, on a densifié notre milieu de terrain et on a les éléments pour vraiment leur rentrer dedans. C'est-à-dire que là, on n'aura pas un Camavinga qui va démarrer latéral gauche. Et on l'avait vu hein, lors du 4-0, sur la fin de match, quand on le replace au milieu, bah, on a un peu plus d'emprise et on arrive à reprendre un tout petit peu le fil du match, même avant qu'Alvarez nous tue concrètement. Donc, tu vois, ça va être important d'avoir ce truc-là. Valverde qui est sur une forme étincelante, Vinicius, c'est son équipe. Pour moi, c'est lui le vrai patron de cette équipe-là. Et la forme du moment le prouve. Même si Bellingham est énorme depuis le début de saison, c'est l'équipe de Vinicius. C'est lui l'atout numéro un. Et de toute façon, sur le terrain, on voit qui est le danger numéro un. On sait qui a ce traitement spécial-là. Et ouais, tu récupères Bellingham. Après, faudra voir aussi, en sachant qu'il y a Tchouaméni,
On va pas faire
Camavinga, Vinicius et
Abdou,
Bellingham
excuse-moi, avec tout
sous le
mon
coup d'une
respect,
suspension.
avec tout mon respect, Abdou, mais on va pas faire tout le pré-match, on va dire à plus de 3 semaines du match aller. C'est vrai que là on
Ah,
parle d'une
désolé.
certaine tendance, mais voilà quoi, il y a plein de données sur
Désolé,
lesquelles
je m'enflamme.
on va quand même se rapprocher de la rencontre pour pouvoir statuer dessus. Hichem. Donc là, tu as pu entendre le fait que voilà, est-ce que la différence, on doit la faire au match retour, comme je suis en train de le dire. Abdou qui dit que c'est plutôt au match aller par rapport à son analyse. Toi, tu penses quoi?
Je vous écoute hein, depuis tout à l'heure et je prends des deux points de vue. Hein.
Il faut trancher.
Ouais, il faut trancher. C'est une question qui n'est pas facile parce que, comme tu le dis, il y a beaucoup plus de... On est à 3 semaines de la rencontre, il y a plein de paramètres qu'on ne prend pas en considération, il y a notamment l'aspect psychologique des joueurs. En abordant cette rencontre, dans quelles conditions, en fait, tout va dépendre du Real Madrid, tout simplement. C'est entre nos mains et c'est rassurant à la fois, mais il ne faut pas qu'on tombe également dans une sorte de pression qu'on se mettrait parce qu'il faudrait prouver qu'on veut notre revanche contre Manchester City. Tu vois, j'ai peur qu'on tombe dans ça et donc ça conditionne effectivement le match aller, mais je pense que je rejoins Abdou, ça va plus se jouer au match retour. Pour moi, on va essayer de le plan, il est de déjà d'essayer de gagner au Bernabéu et ensuite de faire un bon résultat contre Manchester City à l'Etihad Stadium. Après, voilà, c'est dur à évaluer, je donnerai un peu plus mon avis à Abdou pour le coup, Gilles. Mmh. Mais effectivement, c'est pas une question facile à répondre, d'autant que on est très loin de la rencontre, comme je le disais.
Ah oui, clairement. Après, c'est une question de sensibilité, hein. C'est de façon générale, hein. C'est pas au-delà même de cette rencontre, de se dire, hein, quand vous avez une double confrontation en Coupe d'Europe, est-ce que vous, ou à quel moment vous donnez le, on va dire, vous maximisez vos énergies, voilà. Donc, soit c'est en début, soit c'est plutôt sur la fin. Je pense que 2022 a montré à tout le monde que c'est sur la fin des rencontres qu'on a fait les différences et que voilà, les choses se passent, hein, et inévitablement, c'est pour ça que. Voilà, le match raté, le match aller, vous pouvez le rater, vous pouvez le réussir, mais vous devez être toujours en condition de pouvoir être qualifié. Hein, c'est vrai que on a vu des équipes gagner 4-0 une rencontre et perdre le match retour, ça n'arrive qu'une fois sur 200 et quelques rencontres. Mais voilà, c'est
Non, mais c'est clair. Non mais après voilà, c'est après quand il s'agit de grosses rencontres comme celle-ci, c'est toujours difficile à essayer d'estimer quoi qu'il en soit. Pour moi, c'est comme ça que je le vois.
Ah non, clairement. Mais de toute façon, on aura le temps et je pense que on aura beaucoup de temps. Même dans la façon dont on va décliner le podcast dans ces prochaines semaine pour déjà on va dire profiter de la trêve internationale pour peut-être proposer quelque chose de différent, faire le retour par rapport à Bilbao, préparer encore on va dire le match contre City et vraiment rentrer sur des détails. Là je pense qu'Abdou, je vais essayer, j'ai la possibilité d'avoir des personnes qui aussi de la part de qui enfin qui sont du côté de Manchester City pour pouvoir on va dire faire cette préparation d'avant-match et voilà faire l'état des lieux au moment où ce sera opportun, donc au début du mois d'avril, parce que voilà, il suffit juste que les Espagnols parlent de virus FIFA et ça remet tout en cause par rapport à certains de nos titulaires, ceux qui vont se blesser. Je sais pas pourquoi, je vois gros comme une maison, mais Vinicius, je sens qu'il va se blesser et ça change toute notre analyse. Donc du coup, on va essayer de voir justement donc à quelques jours de la rencontre ces aspects-là. Mais voilà, vous serez rapidement informé de ce qui va se passer, de ce qui va être proposé, et on aura l'occasion de faire, comme d'habitude, de beaux épisodes avec vraiment toute une analyse qui va se faire en avant-match, mais aussi après, comme on le fait dans nos soirs de Coupe d'Europe, juste après la rencontre. Mais voilà, messieurs, on a fait à peu près un peu plus d'une heure sur cet épisode-là, donc c'est plutôt intéressant. Donc il y a eu des choses qui ont été dites. On va continuer à le dire encore justement d'ici la fin de la saison. Messieurs, merci.
Merci à vous, les gars.
Merci à vous, les gars. Ça fait un plaisir.
Toujours un plaisir hein, donc de vous retrouver. Et voilà, donc d'ici là, portez-vous bien durant cette trêve internationale. Et comme d'habitude, à la Madrid.
À la Madrid.
À la Madrid.